France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on s'intéresse à la perte. Comment surmonter toutes les pertes qui nous affectent ? Perte de notre jeunesse, de la vigueur de notre corps, de notre santé, de nos illusions, de nos espérances, de nos amours. Et bien sûr, perte de notre vie et de celle de nos proches. Comment les accepter ? Comment y survivre ? Et trouver un chemin vers le bonheur ? En compagnie de la philosophe Marianne Chaillant et du psychologue Loïc Rebu, nous partagerons des pistes pour comprendre en profondeur ces pertes inévitables et les façons de les accompagner. Nous attendons toutes vos questions et vos témoignages au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Vous êtes professeur de philosophie à Marseille. Après avoir écrit « Où est donc le bonheur et à la folie passionnément », vous publiez « Survivre consacré à l'expérience de la perte ». Bonjour Loïc Rebu.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, clinicien et psychothérapeute, créateur avec Mathilde Bessé du podcast Militant Psy et du compte Instagram Militant Psy consacré à la santé mentale. Et ce matin, on va bénéficier de ce regard de psy sur nos questions philosophiques appliquées au quotidien. Alors, première définition de la perte dans le Robert, c'est tout d'abord le fait de perdre quelqu'un, d'en être séparé par la mort. C'est aussi le fait d'être privé d'une chose dont on avait la propriété ou la jouissance, de subir un dommage. C'est également le fait de perdre, d'être vaincu. Et vous, votre définition de la perte, Marianne Chaillant ?
Elle reprend celle que vous venez d'énoncer.
C'est marrant parce que la définition du Robert commence par la mort, le fait de perdre quelqu'un, d'en être séparé par la mort. C'est la première définition dans le Robert.
J'ai l'impression que c'est la perte ultime, la perte avec un P majuscule, et que les autres dont vous avez parlé, la séparation d'un objet ou la rupture amoureuse, ou ce sont, il n'y a pas une différence de nature pour moi, mais peut-être une différence de degré. Et la perte ultime et la mort. Dans mon essai, j'ai voulu envisager toutes ces pertes.
L'expérience de la perte est ce qui nous réunit tous, elle est universelle. Nul ne peut y échapper. Perte de notre jeunesse, de la vigueur de notre corps, de notre santé, de nos illusions, de nos espérances, de nos amours. Et bien sûr, perte de la vie et de celle de nos proches. C'est l'écrivain américain Scott Fitzgerald qui disait que toute vie était un processus de démolition, donc démolition de notre jeunesse, de nos amours, de notre santé, de notre vie. Bref, la perte se décline sous mille visages, et comme le chantait Léo Ferré, avec le temps, tout va, tout s'en va. Marianne Chaillant, vivre, c'est donc continuellement perdre.
Hélas. Enfin, je dis hélas, signe que je ne suis pas complètement guérie, malgré l'écriture de mon essai, puisque tel était bien le but. Comme beaucoup de nos auditeurs, j'en suis sûre, je souffre de ce sentiment aigu du caractère tragique de l'existence. Et cette perspective, pourtant on est préparé, Léo Ferré nous l'a dit, Baudelaire en poésie, là, dans son poème terrible, L'horloge, et puis nous le voyons bien autour de nous, nous voyons se défaire les liens les plus beaux qui nous ont tenus dans l'existence. Et cette loi terrible de l'existence, eh bien, une part de moi s'y refuse. Et je me suis demandé si la philosophie, dont on dit que la philosophie c'est une méditation de la mort, je me suis dit, bon, est-ce que les philosophes ne pourraient pas m'aider, me rendre plus sage et m'apprendre à accepter ce qu'est la vie, à accepter la perte, me donner des moyens de la surmonter, de la traverser, voire pire, de l'accepter pleinement.
Au cœur de votre livre, La question de la mort, vous écrivez sur la mort alors que vous avez toujours eu peur d'elle depuis votre adolescence.
Oui, y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Albert Cohen et qui dans Au vous, frères humains, ou dans Le livre de ma mère où il parle du décès de sa mère, dit « Qui puis-je si elle m'obsède, si elle m'endeuille, cette mort universelle, si je ne suis pas comme tous ces pressés dans les rues ?» Tous ces gens qui s'occupent de choses vaines. Lui, quand il est dans la rue et qu'il voit les gens marcher, il dit « voilà des futurs cadavres ». Eh bien, j'ai un peu Albert Cohen en moi, cette pensée omniprésente de la mort qui vient et qui rend toute chose vaine. Et bon, c'est pas très agréable. Et heureusement pour moi, j'ai un autre Albert, Albert Camus, qui lui, bien que penseur de l'absurde, lui aussi nous montre bien que Il n'a pas de sens. Et ça pourrait être terrible. Mais c'est aussi celui qui nous parle des étés invincibles que nous portons en nous et qui, sans se voiler la face sur le caractère tragique de l'existence, est porté par un élan vital très fort.
Marianne Chaillan, votre livre débute avec un cri de bête, celui de votre mère à l'annonce de la mort de l'une de ses plus proches amies. Et pas de cri chez votre père quand il vous annonce la mort de votre grand-mère, mais un simple « voilà ».
Oui, voilà. Le téléphone sonne. Je démarre le livre par ce téléphone qui sonne. Pour chacun de nous, il a sonné ou il sonnera, et ce sera l'annonce d'un décès, d'une rupture, de la perte d'un emploi. Ce soir-là, il a sonné pour moi. Mon père m'a dit « voilà ». Je n'ai pas eu besoin de plus pour comprendre que ma grand-mère venait de mourir. Il n'a pas crié, je n'ai pas crié. Peut-être aussi parce que nous nous y attendions, ce qui ne veut pas dire que nous n'étions pas dans une souffrance extrême. Ma mère, elle, ne s'y attendait pas. Et ce téléphone qui sonne, qui vient briser l'équilibre du temps, c'est précisément ce moment-là que j'ai essayé de regarder en face dans le livre pour savoir est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut espérer s'y préparer ou est-ce que toute préparation est vaine. Et quand il frappe, comment on fait pour aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin?
Oui, c'est la phrase d'Aragon, comment aimer la vie si le temps est assassin et emporte avec lui les visages aimés et le rire des enfants. Vous êtes hanté par la mort des êtres aimés, par le divorce de vos parents ou encore par les ruptures amoureuses. Avec cette angoisse profonde, celle d'expérimenter à nouveau la perte.
Oui.
Et la perte de sens qui va avec.
J'ai fait l'expérience comme tout un chacun de la perte et j'ai l'impression que chaque perte fait craquer un lien qui nous tient debout. Et pour l'instant, j'ai cette chance que d'autres liens me tiennent encore. Mais ces liens, je le sais, seront eux-mêmes emportés par le temps. Et donc la question, c'est comment vivifier finalement l'élan vital, comment survivre, c'est-à-dire comment à la fois surmonter ces expériences douloureuses et comment être vivant le plus intensément possible, survivre en deux mots, quand, sans se voiler la face, il faut bien reconnaître que vivre, c'est faire l'expérience de la perte.
Marianne Chaillan, vous l'expliquez dans votre livre, l'adieu au passé est très difficile pour vous. L'adieu au passé, des lieux, des objets, toutes ces pertes vous déchirent. Comment vous l'expliquez? Ça vous hante depuis l'adolescence?
Oui, alors je ris parce que quel portrait de moi en ces premières minutes de l'émission.
Oui, alors
mais...
je rassure nos auditeurs et auditrices. Il y a un chemin qui va nous mener vers la joie, la joie spinozienne, la joie chère à Spinoza.
Exactement, et puis j'ajouterais que tout autant je suis hantée par la perte, tout autant je suis mue par une joie de vivre immense. Et probablement l'un et l'autre vont ensemble, c'est-à-dire que j'aime tellement la vie que je suis triste à l'idée de perdre quoi que ce soit.
Et je précise, vous avez écrit de brillants essais sur Harry Potter, sur Disney, sur les chansons populaires.
Voilà, quand même. Donc, ne fuyez pas. C'est une grande vivante qui parle, mais une grande vivante qui aussi regarde la vie en face, qui ne veut pas se voiler la face devant le caractère tragique de notre existence.
Loïc Robu, l'expérience de la perte, quelle que soit la perte, c'est une question qui hante certains de vos patients.
Ben, merci pour cette question, parce que effectivement, quand j'ai eu le thème de l'émission, je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est central, est-ce que ça a un impact? Parce que je me suis dit, au premier abord, c'est parce qu'il nous arrive des choses qu'on vient consulter. Mais en fait, cette réponse, elle est incomplète. Comme vous disiez, en fait, il nous arrive tout le temps des choses, et ça, c'est la vie. Mais parfois, ces choses, elles vont avoir un impact, elles vont nous désorganiser. Et c'est cette désorganisation qui va nous forcer à devoir nous réadapter. Il y a eu un avant, il y a un après, et on n'avait rien demandé, et on doit trouver des solutions, et c'est vraiment... C'est pour ça que les gens viennent consulter, et notamment consulter un psychologue, et la psychothérapie est là pour ça, elle est là pour trouver, se réadapter, accepter, ou même guérir, en fonction de ce qui se passe, face à ce changement de vie qui nous a atteint. Mmh.
Comment vous abordez-vous la question de la perte dans votre cabinet de psy, perte évidemment de l'amour, perte d'un proche, perte d'emploi, perte de la santé, avec l'arrivée d'une grave maladie?
Alors du coup, moi je suis moins philosophique dans mes réponses, parce que ce qui va se passer nous en psychothérapie, et notamment dans la psychothérapie scientifique, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles, donc on va accueillir la personne et tout ça, et on va trouver un terrain d'entente ensemble, et essayer de créer un espace chaleureux, mais après surtout ça va être une analyse fonctionnelle, donc c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui est en train de nous arriver, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a des difficultés dans notre qualité de vie, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est comme ça qu'on va aborder petit à petit la question de la perte d'autonomie de la personne, peu importe ce qui s'est passé.
Alors Marianne Chaillant, en dépit de cette expérience commune de la perte, celle de la vie notamment, nous vivons la plupart du temps comme si nous devions vivre toujours, et nous oublions cette citation des trois sœurs de Tchekhov, présent dans votre livre, ce qui nous paraît important, grave, lourd de conséquences, eh bien, il viendra un moment où cela sera oublié, où cela n'aura plus d'importance.
Ouais, c'est terrible, hein ?
Les trois sœurs de Tchekhov.
et on trouve un constat aussi redoutable dans les premières pages d'un grand livre qui s'appelle Les années, d'Annie Arnaud. J'ai lu les premières pages, je me suis dit que c'est beau, que c'est triste, je pourrais pas aller plus loin, parce que moi, cette perspective-là, qui est dite clairement, on détourne pas le regard... Je la trouve horrible. Et encore une fois, par amour de la vie. Parce que je trouve ça terrible que nos plus grandes joies, vous citiez tout à l'heure Léo Ferré, cet autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. Est-ce que c'est pas horrible quand l'être qui a été notre lien le plus intime au monde devient une voix étrangère? Et nous l'avons vécu, cette rupture amoureuse. Parfois une rupture amicale, tout aussi atroce. Ce moment où on doit se réinventer, comme vous le disiez. Je pense aussi à Céline Dion, que je cite dans le livre, qui perd sa voix. Qui est Céline Dion? Elle l'appelle « Je suis Céline Dion », mais qui je suis lorsque j'ai perdu ce qui m'a toujours définie? Voilà une question terrible. Et nous sommes confrontés à la perte. Alors oui, sans doute, je tiens à le dire, ce qui est merveilleux dans la vie, c'est que les liens se défont, mais d'autres se nouent. Mais ces liens-là qui se nouent, eux-mêmes se déferont. Et donc, la question que j'ai essayé de à laquelle j'ai essayé de répondre dans mon livre, c'est comment aimer cette destruction que vous évoquiez? Comment avoir l'élan, l'envie et le désir de nouer des liens quand on sait que ces liens nous seront arrachés.
Loïc Robu.
Et oui, effectivement, il y a indéniablement vivre, c'est faire avec ce qui va ne plus être à un moment donné. Même si on parle du deuil, c'est l'attachement, le fait d'être avec les autres. Le deuil, c'est le prix à payer de cet attachement. Et plus on est attaché à une personne, plus le deuil risque d'être de complexe. Après, il y a des choses un peu différentes entre un deuil, donc une perte d'un être cher qui ne sera plus, et une perte d'un amour ou d'un événement ou d'un projet. Mais oui, ça va y avoir... des choses plus dures à vivre, quoi, à des moments.
Tiens, un mot sur les adolescents que vous connaissez bien, Loïc Crobu. Vous avez publié « Est-ce que c'est normal ?» les 80 questions psy qui t'inquiètent, hein, à destination des ados et des jeunes adultes. Eux aussi subissent une perte quand ils deviennent adolescents, la perte de l'enfance. C'est un deuil à faire, très, très difficile pour certains adolescentes et adolescents.
En fait, la vie, elle est faite de... multitude de réadaptations. C'est ça qui nous fait bouger aussi. Hein. C'est parce qu'il nous arrive quelque chose qui nous désorganise, nous chamboule. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre de faire face avec nos compétences, avec nos stratégies, avec ce qu'on est équipé pour faire face au changement. Hein. Ça, il faut se rassurer aussi en nous. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir traverser ces choses-là. Mais il va falloir accepter de les traverser. Et c'est là où ça peut poser problème.
Marianne Chaillant, on sent en lisant votre livre « Survivre » que... voilà, il est difficile pour vous, il a été difficile pour vous de quitter l'enfance.
Oui, et en vous écoutant parler...
Quand vous parlez de vos grands-parents, il y a des pages magnifiques sur vos grands-parents paternels, maternels, qui font écho chez chacun de nous, en moi par exemple, avec ma grand-mère maternelle. On sent cette nostalgie, vous abordez d'ailleurs la question de la nostalgie dans votre livre, la nostalgie de ces temps heureux de l'enfance entourés de vos grands-parents.
Oui, c'est vrai que dans ce livre, qui est un essai de philosophie, je vais pourtant chercher des chansons, des poèmes, de la littérature, et aussi je livre mon expérience personnelle, parce que je veux montrer que la philosophie se pose des questions qui nous concernent dans notre chair la plus intime.
C'est une philosophie incarnée.
Incarnée, c'est ce que je veux, une philosophie vivante et accessible, et en parlant de moi, j'espère que je vais pouvoir être utile à tous ceux qui, comme moi, ont eu ou auront le cœur brisé. D'une certaine manière, je reviens à Annie Arnaud, son travail autobiographique, on parle parfois d'auto-sociobiographie, puisqu'en se peignant elle-même, elle peint toute une classe sociale. Moi, dans mes derniers ouvrages, ce que j'ai voulu faire, c'est je mène des enquêtes au sein de la philosophie pour répondre à des questions que je me pose à travers mon histoire personnelle, et c'est presque, on pourrait dire, des auto-philobiographies.
Allez, comment surmonter la perte, c'est notre thème ce matin. Toutes vos questions et vos témoignages au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. On écoute Serge Gainsbourg, le poinçonneur des lilas, une chanson de 1958, 10h20 sur Inter.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Serge Gainsbourg, le poissonneur des lilas. Vous utilisez cette chanson,
oui,
Marianne Chaillon,
en cours. On a au programme le thème du travail.
En terminale.
En terminale, en philo. Et quand je fais mon cours sur Marx, qui lui aussi est au programme, la meilleure illustration, Serge Gainsbourg.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Comment surmonter la perte? C'est notre thème ce matin avec la philosophe Marianne Chaillant, avec le psychologue et psychothérapeute Loïc Rebut. Alors Marianne Chaillant, dans votre beau livre « Survivre », vous vous intéressez donc à l'expérience de la perte, à la perte de la vie essentiellement, mais aussi à la perte de la santé. En vous appuyant sur l'expérience du philosophe Ruhen Ogien, que vous affectionnez, dans son livre « Mes mille et une nuits », il raconte la maladie, le cancer qui le frappe et qui l'emportera quelques mois après la parution de ce livre en 2017. Pour Ruhen Ogien, la maladie ne rend pas meilleur, ni plus empathique, ni moral. Il dénonce une philosophie doloriste. Le dolorisme, c'est la doctrine de la valeur morale de la douleur. Pas de bénéfices intellectuels ou moraux de la douleur. Bref, ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas forcément plus forts, nous dit Ruhen Ogien.
Oui, bah vous avez très très bien expliqué.
J'ai bien lu votre livre.
Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Que cette pensée, je la trouve libératoire. Parce que,
pourquoi?
Parce que... Il y a toujours un vocabulaire un peu guerrier qui est associé à la maladie. Il faut lutter, il faut se battre. Il a vaincu la maladie. Et par déduction, celui qui n'a pas vaincu, alors il a perdu, c'est ça. Chez lui, il y a une disqualification de tous ces discours-là. Pour dire que la maladie, elle nous frappe, elle est absurde. Il n'y a pas de sens. Et c'est ça qui est très dur. Ce n'est même pas une épreuve sanctifiante pour faire l'épreuve de sa force intérieure, rien du tout. Et lui, il apprend un jour qu'il a un cancer.
En 2013.
En 2013, pancréas. Et il va écrire ce livre qui est extraordinaire, qui là aussi est un livre de philosophie vivante.
Mais mille et une nuits.
Mais mille et une nuits. Il est comme Scheherazade qui supplie tous les soirs le sultan Shahriar de lui épargner la mort et de la laisser en vie pour le lendemain. Et lui, c'est pas Shahriar qu'il supplie, c'est son cancer, c'est la mort qui vient, la mort qui rôde. Et il va tenir mille et une nuits et il va écrire, il va tisser comme Scheherazade des lignes qu'il nous a laissé et qui nous invite, elle aussi, à saisir notre unique matinée de printemps.
Et quelle leçon tirer de la perte inéluctable de la bonne santé, selon le point de vue de Ruhénogien ?
Ce que moi j'en retire, c'est ce caractère effroyable. Il cite à la fin de son essai une page de Proust, où il dit que si on rencontrait un brigand dans la rue, qui essayait de nous dérober notre sac, on pourrait encore essayer de parler avec lui. Encore, je ne dis pas que ça marcherait, mais parler à notre corps lorsqu'il nous enferme dans la maladie, il y a quelque chose de terrible. Et cette expérience-là, de se retrouver emmuré en soi-même, soumis à l'expérience de la maladie, il montre le caractère absolument redoutable de cette expérience. Et je trouve ça bien qu'il nous montre les choses en face.
Loïc Robu,
c'est hyper important, je trouve, que de déconstruire cette phrase-là, ce qui ne tue pas, je te rends plus fort, parce que
Phrase de Nietzsche.
Elle fait des dégâts graves. En fait, c'est ce qui permet aussi d'invisibiliser la souffrance, d'invisibiliser les maltraitances, ou de pardonner les agresseurs en disant que quand même, il ne t'a pas tué, ça va. Hein. Et puis grâce à ça, tu es devenu cette personne. Donc en fait, finalement, grâce à moi qui t'ai maltraité, regarde la personne que t'es devenue. Non, en fait, on s'en sort quand même mieux quand on n'a pas vécu des choses douloureuses. Et puis, comme vous le disiez très bien, en fait, c'est inexplicable. On ne mérite pas d'avoir des choses douloureuses sur nous, quoi.
Et nous accueillons Mireille. Bonjour Mireille.
Oui, bonjour.
Vous appelez de l'Aisne.
Oui, de Soissons dans l'Aisne, oui.
Alors, quel est votre témoignage, Mireille ?
Donc, moi, je souffre depuis plusieurs années d'une DMLA et je perds donc progressivement la vue.
Alors, la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Liée, voilà, oui. Et donc, c'est très difficile à vivre. Mmh. Moi, je suis très en colère car tout ce que j'aime, je ne peux plus en profiter. Aller au cinéma... visiter les expositions, conduire... je ne vois à peine mon visage, j'ai beaucoup de mal à voir le visage des autres. Et je suis confrontée à des tas de difficultés quotidiennes.
Et la question, évidemment, centrale, c'est comment accepter cette perte,
c'est ça,
en sachant que cela va... sans doute s'aggraver.
Oui, ça va s'aggraver parce qu'il n'y a pas de traitement.
Loïc Robu.
Bonjour.
Je que vous êtes psychologue.
On entend votre souffrance et je pense que le premier lieu, c'est que vous avez le droit, en fait, d'être triste, commencer par faire face à tout ça en étant triste, en prenant la mesure de ce qui se passe, parce que, comme vous dites, ça a un vrai impact sur votre vie, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de douloureux, et c'est injuste. En fait. Et donc déjà, premièrement, vous avez le droit de vivre ces émotions-là parce que...
Le droit d'être en colère.
Oui, le droit d'être en colère, le droit d'être triste, le droit de se plaindre aussi, parce que ça aussi, c'est ce qu'on enlève aux personnes qui commencent à avoir un handicap, par exemple. Si, vous avez le droit de tout ça. Et je ne vais pas vous assommer de phrases de « il va falloir accepter », des choses comme ça. En fait, ça sera à votre rythme. Vous avez le droit de vous faire aider aussi, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider à avoir une vie meilleure et trouver des solutions pour réadapter votre vie face à la maladie, mais ça peut prendre du temps et vous avez certainement besoin aussi du soutien de vos proches et de remobiliser toutes les ressources que vous aviez autour de vous avant ça pour commencer à faire ce travail d'acceptation qui est long et difficile parfois.
Marianne Chaillant.
Oui, c'est face à ce genre d'expérience ou de témoignage que j'ai voulu confronter la philosophie pour pas... qu'on se paye de mots. Toute une première partie du livre où j'envisage ces philosophies qui se sont présentées comme des consolations et qui essayaient de dire « prépare-toi, tous les matins quand tu étreins ton fils, dis-toi, peut-être demain tu ne seras plus là », comme si on pouvait par avance apprivoiser les pertes à venir, les douleurs à venir, pour moins souffrir lorsqu'elles nous frapperont. Et Loïc l'a bien dit, on entend la souffrance dans votre voix et... en vous écoutant, je me rends compte de la vanité de tous les systèmes théoriques qui prétendraient nous aider à accepter par avance. Et c'est l'expérience que je fais dans mon livre. C'est-à-dire que je me tourne vers la philosophie, est-ce qu'elle peut nous aider ? Et je disqualifie tout ce genre de discours. Alors j'en trouve d'autres. Je ne dis pas que ce sont des clés, je ne dis pas qu'elles sont universelles. Mais qui aident à vivifier. Loïc parlait des gens qui peuvent vous entourer, des liens qui vous ramènent du côté de la vie. Voilà, une philosophie qui ne nous dit pas « accepte, ouais. C'est facile, guéris ». Non, pas du tout. Mais intensifions ce qui nous reste, le peu qui nous reste. Ouais.
Et puis, on ne peut pas se préparer à ce genre de choses. En fait, moi, ce que je dis souvent à mes patients quand ils viennent et qui ont une angoisse de perdre un proche comme ça, j'ai jamais eu dans mon cabinet, mais quelqu'un qui me dit « Bah écoutez, monsieur Cru, tout va bien. Ma mère vient de décéder, je m'étais bien préparé, là je vais bien. » En fait, non, en fait, quand on va traverser ce genre de choses, on va les traverser. Et rien ne peut nous aider à passer cette étape en avance.
Merci beaucoup, Mireille, d'avoir témoigné ce matin. Nous accueillons Julie. Bonjour, Julie.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse. D'où appelez-vous, Julie ?
Merci beaucoup. J'appelle de Lozère.
Alors, quel est votre témoignage ?
Alors, mon témoignage, c'est une forme de... En fait, je suis nostalgique du temps passé. Quand j'entendais tout à l'heure une personne, une de vos invités, parler des moments passés avec ses grands-parents dans le jardin, moi, ça me ramène à mes moments où je passais... je suis très émue. Mmh. Où je passais toute petite avec ma mamie qui me gardait quand j'étais petite. Et comme je m'attache énormément aux gens, aux lieux... aux choses. J'ai énormément de mal à me départir de ces choses-là. Et quand une amitié se termine, c'est pour moi difficile d'arriver à la laisser s'en aller. Je m'accroche et des fois j'en deviens presque envahissante. Et je m'en rends compte. Enfin, je travaille sur moi et puis bon, j'ai grandi aussi. Mais là maintenant, j'habite en Lozère et c'est vrai que je chemine pour arriver à me délester un petit peu du matériel, des objets qui font de moi celle que je suis. Je suis très, très, je chine énormément, je vais en brocante, je craque sur des trucs, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et puis bon, j'ai réalisé il y a quelques années que j'étais hypersensible, donc c'est vrai que je suis une grande nostalgique du temps qui passe et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à lâcher certaines choses.
Nous serions dans le studio parce que j'ai l'impression que vous avez lu le livre de Marianne Chaillant parce que Marianne Chaillant est une grande nostalgique et une accumulatrice d'objets, notamment d'objets des années 90. Vous aimez bien chiner les Game Boy des années 90, etc. Ah ouais. Enfin voilà, ça vous parle. Et c'est vrai que vous abordez cette question de la nostalgie dans votre livre, ce sentiment de regret des temps passés, des temps perdus à jamais, auxquels on a aussi des sensations agréables a posteriori. Ce qui est beau dans la nostalgie, c'est que c'est une émotion mixte, à la fois agréable et un peu désagréable. Que vous inspire le témoignage de Julie ?
La nostalgie, c'est un sentiment terrible. Il y a le mot douleur, la douleur du retour et d'un retour impossible. C'est une souffrance. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le chapitre que je consacre à l'expérience de la nostalgie, je me tourne d'abord vers Amélie Nothomb, que vous devez connaître, et qui, vous le savez, souffre elle aussi d'un mal sans retour. Elle ne cesse de regretter ce Japon perdu. Et de livre en livre, elle montre comment ce retour est impossible. Quand elle y revient, ce n'est plus le même Japon, et elle-même n'est plus la même Amélie. Et elle va écrire un livre qui s'appelle « La nostalgie heureuse » et où elle nous montre comment convertir ce sentiment qui est d'abord douloureux en sentiment plus joyeux. Alors, par le pouvoir de l'art, justement, les récits qu'elle fait de ses expériences passées transforment l'algie qui est d'abord que douleur, en joie. Alors vous allez me dire, on n'est pas tous Amélie Nothomb, on ne peut pas tous écrire. Mais en vérité, si. J'ai rencontré dans un salon une jeune, pas du tout, pas une jeune femme, mais une dame, qui m'a donné un livre dans lequel elle racontait les expériences qu'elle avait eues elle aussi avec ses grands-parents. C'était peut-être pas dans le jardin, c'était ailleurs. Elle l'a écrit. Et je suis sûre que de l'avoir écrit, elle a déposé dans ces pages-là, comme on dépose parfois des feuilles des feuilles d'arbres entre les feuilles d'un livre pour les garder précieusement. Peut-être en déposant vos souvenirs dans un livre, vous sauveriez quelque chose de ce temps qui vous est si cher.
Et dans la nostalgie heureuse, Amélie Nothomb, donc l'autrice de Stupeur et tremblement et de bien d'autres ouvrages, utilise le terme japonais Natsukashi. Natsukashi, qui désigne le sentiment de douceur qui s'empare de nous lorsque nous revient en mémoire un beau souvenir. C'est un très beau terme, Natsu Kashi.
Oui, voilà. J'ai trouvé une autre solution aussi pour notre auditrice quand j'ai réfléchi à la nostalgie. Et cette fois, c'est chez le philosophe Yankelevitch. En fait, il nous invite d'une certaine manière à éprouver une nostalgie par avance. C'est-à-dire en vivant l'instant, vous voyez, l'instant que je partage là en étant dans le studio avec Loïc et Ali, eh bien, je vais m'y attacher en étant nostalgique par avance, du moment où tout à l'heure je sortirai et je ne serai plus là. Finalement, je retourne la nostalgie comme une arme qui me fait jouir de l'instant.
Loïc Robu,
pourquoi pas, effectivement, dans ce sens-là, de se dire, ok, là, il faut vraiment que tu profites parce que peut-être qu'il va y avoir quelque chose de difficile après, quoi.
Oui.
C'est ce que je dis souvent aussi au cabinet, c'est qu'on peut tout traiter en psychothérapie. Le regret, c'est un peu plus compliqué, parce que quand on a raté une occasion, c'est plus dur de revenir. Et là, ce qui va nous arriver, c'est qu'on va avoir du mal peut-être à faire face à cette détresse, et c'est ça qui peut engendrer cette difficulté à passer après, quoi.
Julie, vous êtes prête à coucher sur le papier vos expériences nostalgiques ?
Je le fais déjà, en fait, et c'est ça qui est génial, c'est que vous entendre me dire... Écrivez quelque chose. En fait, il y a plein de gens qui me le disent parce que j'écris.
Mais très bien.
Ça peut être, un retour de vacances, un instant que je vais vivre, ma grand-mère, ma famille. J'écris beaucoup, beaucoup. J'ai perdu mon chien là au mois de septembre. J'écris beaucoup sur lui.
Et je parle sous le contrôle du psychologue Loïc Robu. C'est vrai que dans les moments difficiles, la nostalgie, ça reste une ressource, un réservoir, c'est-à-dire une sorte de refuge vers lequel aller quand les temps sont un peu plus difficiles.
Oui, je suis d'accord. Le piège, ce serait de se dire non, il faut aller vers le positif et c'est tout. Il faut pas se concentrer sur ça, mettre de l'énergie à lutter contre nos émotions désagréables. Ça, ce serait peut-être c'est le piège à éviter, je pense.
Merci beaucoup, Julie, de nous avoir appelé. Tiens, évoquons une perte que vous abordez dans votre livre, c'est la vieillesse. cette vieillesse qui nous touchera tous, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette perte inéluctable, Marianne Chaillant.
Là aussi, rien. Et alors,
vous convoquez Simone de Beauvoir.
Oui, il y a des pages de Simone de Beauvoir qui m'ont beaucoup touchée, beaucoup plu. Elle les écrit à peu près à l'âge qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire 40-50 ans. et elle a des mots redoutables pour elle-même que je trouve très, très, très durs. Je les cherche, là, je ne les trouve pas. Mais elle dit que quand elle regarde son visage, la plupart des gens doivent trouver que c'est une femme pas mal pour son âge. Elle, ce qu'elle voit, c'est une vérole qui s'est emparée de son visage et qui lui infecte aussi le cœur. Et à l'âge qui est le mien, donc à peu près le même que le sien quand elle écrit ça, je commence à faire l'expérience de cette perte-là. Au début de L'Amant de Marguerite Duras, elle dit très vite dans ma vie, il a été trop tard, j'ai un visage détruit. Je ne dirais pas que j'ai un visage détruit, mais je vois bien que je n'ai plus le même visage, mais je n'ai plus le visage de la Marianne d'avant. Et je vois...
Comment vous vivez cette perte ?
Eh bien, avec tristesse et à la fois, pour le coup, moi, la grande angoissée de la perte, avec gratitude, parce que en voyant ce visage qui est le mien, c'est aussi le visage d'une personne qui a eu la chance de traverser le temps encore. J'ai déjà perdu des proches autour de moi qui n'ont pas eu la chance d'arriver à l'âge qui est le mien. Et j'aime assez... J'aime assez les signes de l'âge. Je ne crois pas. L'expérience le dira, Ali, quand on se retrouvera dans 15 ou 20 ans, si je céderai un jour à la tentation de la changer. Je ne crois pas, parce que j'aime la trace du temps sur mon visage, pour le coup.
Loïc Robu, vous n'êtes pas encore concerné, vous n'avez que 30 ans. Est-ce que vous anticipez cette vieillesse qui arrive? Est-ce que vous vous dites, parfois à 30 ans, oh là là, je passe un cap et je m'approche tranquillement
de la fin, c'est ça?
Non, pas de la fin, mais d'une forme de vieillesse.
C'est vrai que c'est des questions qui ne me traversent pas et je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est une vraie inégalité entre, je pense, des hommes et des femmes dans notre société où... qu'est-ce qu'on entend en tant qu'homme, c'est que on va bien vieillir, que c'est bien, que c'est joli les rides, les cheveux blancs, c'est super. Et en fait, on est dans une société où le corps de
la femme... Oui, il y a une chose qui arrive qui s'appelle l'andropause autour de 50 ans.
Mais en tout cas, le corps de la femme, il est sans cesse commenté, sans cesse dénigré et on ne magnifie pas du tout les personnes qui vieillissent, qui prennent de l'âge, qui sont... Il y a de la beauté dans tous les âges.
Magnifique,
Et nous accueillons Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour. Merci, je vous remercie pour vos émissions.
Merci beaucoup. D'où appelez-vous, Émilie ?
Alors, j'appelle de Loire-Atlantique. Et le thème abordé aujourd'hui, la perte, me parle actuellement parce que enfin, ma fille de 6 ans s'y retrouve confrontée. Elle a perdu son doudou. Et elle y était très, très attachée. C'était son petit compagnon. Voilà, ce n'était pas une simple peluche pour elle. Et, et elle a beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Et face à ça, moi, sa mère, bah, j'essaye de trouver les bons mots, les bonnes attitudes. J'essaye de ne pas trop culpabiliser. Mais voilà, je voulais avoir vos conseils.
Alors, il y a une analogie que l'on peut faire dans le livre de Marianne Chaillant. C'est quand vous perdez, Marianne Chaillant, un tote bag que vous avez acheté à Berlin. Et je peux vous assurer que grande tristesse de Marianne Chaillant, parce qu'évidemment, ce tote bag a une histoire particulière. Et donc, on peut faire peut-être une analogie avec le doudou de la fille d'Émilie.
Mais j'ai un souvenir atroce d'une perte de doudou. Donc, ça ne vous rassure pas dans un premier temps, puisqu'à 45 ans, je pleure encore sur ce doudou perdu, étant enfant, à peu près au même âge que votre fille. Mais grâce à votre intervention, je crois aussi, vous nous permettez de poser la question de savoir ce qu'il faut dire aux enfants de la question de la perte. Là, elle la rencontre pour la première fois, à travers, peut-être pas la première fois, mais à travers l'expérience d'un doudou perdu, mais... Comment parler de la perte aux enfants? Ça, c'est une sacrée question.
Il faut m'envoyer la balle, c'est la patate chaude. Non, mais en fait, c'est pas à négliger, c'est une vraie perte pour votre fille. C'est les enfants, je sais pas, quand ils vont se promener avec vos enfants, vous voyez, ils ramassent un caillou, pour eux, c'est un pouvoir magique. Ils ont un pouvoir d'imagination très fort et ils imprègnent leurs objets. Donc ouais, c'est une vraie perte et il va falloir l'aider à traverser ça, mais surtout la valider. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est hyper triste d'avoir perdu le doudou et qu'on comprend qu'elle est perdue. Ça.
Donc de ne pas dire, c'est pas grave.
Non, ouais, vraiment. Et regardez, on a plein sur nos étagères des objets, voilà, le tote bag, des choses comme ça. Moi, j'ai des objets qui servent à rien. J'ai un marque-page qui vient de ma grand-mère. Vraiment, il est tout pourri. Mais il a une force symbolique pour moi. Et donc, si je le perdais, je serais très triste. Mais ce doudou, ben, il est très triste.
Ouais. Et vous avez accepté la perte de votre tote bag.
Allez, vous me peignez meilleur que je ne suis. Vous savez que j'ai envoyé quelqu'un le racheter et le même le racheter en double.
Émilie, est-ce qu'on a répondu à votre question?
Oui, merci à cette idée de la compréhension.
Voilà. Le temps va faire son œuvre après.
Oui.
Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir appelé. Alors, revenons à la question de la mort qui est centrale dans votre livre, Marianne Chaillant. Est-ce que la philosophie nous aide à conjurer tout de même cette angoisse de mort? Est-ce qu'elle peut nous consoler? C'est Socrate qui dit « tu as peur de la mort ?» et fait de la philosophie.
Oui, ça fait partie de ces systèmes philosophiques que j'envisage dans un premier temps, qui s'inscrivent dans cette idée que philosopher, c'est apprendre à mourir. D'ailleurs, on raconte qu'un philosophe qui s'appelait Caton, au moment de mourir, tenait dans sa main le fédon de Platon et dans l'autre le glaive, l'un pour apprendre à mourir et l'autre pour passer réellement de vie à trépas. Et donc, je me suis dit, tiens, allons lire le fédon ou le relire pour voir si ça m'aidera, moi, à affronter la pensée de la mort. Je me suis aussi tournée vers les stoïciens, vers les épicuriens, et j'ai testé sur moi. Et ça n'a pas beaucoup marché. Cela dit, si vous me demandez, est-ce que la philosophie peut nous aider à surmonter la perte? Eh bien, de façon paradoxale, pas celle qui prétend nous faire apprivoiser la perte ou l'idée de la mort, et plutôt à l'inverse. Ce que j'ai trouvé comme réponse dans la philosophie, ce sont ces philosophies qui, au contraire, nous disent « la philosophie, c'est pas méditer la mort, c'est au contraire une méditation de la vie. Et il faut engager toute son énergie dans l'instant, dans l'élan vital, dans le fait d'intensifier, de vivifier ce qui nous attache au monde, plutôt que d'anticiper par avance ce qui nous sera arraché ou d'anticiper la perte. »
Par exemple, cette citation du philosophe grec Épicure, né en moins 341 et mort en moins 270 sur l'île grecque de Samos, cette célèbre phrase « La mort n'est rien pour nous, car tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas. » Et quand la mort existe, nous ne sommes plus. Ce genre de phrase, vous, ne vous console pas?
Ça a marché pendant quelques minutes. Et puis après, d'abord, j'ai un public très exigeant devant moi. J'enseigne tous les jours en lycée. Et mes lycéens, ils se payent pas de mots. Il leur faut des... voilà. Et donc, au début, ils m'ont dit, oui, c'est pas mal. Mais en fait, quand on a peur de la mort, on n'a pas peur que de sa propre mort. Ouais. On a peur de la mort de nos proches. Et là, pour le coup, Épicure, non seulement il nous aide pas, mais il aggrave les choses. Parce qu'il nous dit que quand on meurt, c'est fini. Et donc, nos disparus ont bel et bien disparu pour toujours.
Loïc Roby.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça peut même aggraver. Oui, vraiment, c'est plus on va orienter notre attention sur la mort, sur ce qui nous fait peur, et donner toute notre orientation vers ça, plus on va augmenter notre anxiété. C'est une fabrique à troubles anxieux, ce genre de choses.
Et le philosophe Montaigne, son parcours incarne ça. Dans une première partie de sa vie, il dit « Oui, tout le but de notre carrière, c'est la mort, pensons à la mort, apprivoisons la mort. » Et puis, un jour, la peste frappe Bordeaux. Et il se rend compte que ces paysans qui n'ont pas lu le Fédon de Platon, qui n'ont pas fait de philosophie, vont au-devant de la mort aussi sagement que les philosophes, et que la mort a tout fait de nous enseigner. La nature nous enseigne très vite ce qu'il faut faire. Et il change complètement de philosophie, et il nous dit engageons toute notre énergie dans l'instant, vivons, soyons plutôt soucieux de ne pas avoir assez vécu, et demandons-nous chaque soir, ai-je assez vécu, plutôt que, me suis-je assez préparé à mourir voilà, parce que la mort, les pertes ne se regardent pas en face, c'est comme la gorgone, c'est comme ça sidère en fait, c'est comme Méduse. Quand on pense à la mort, on va pas bien, on est sidéré, voilà. Par contre, engageons tout notre esprit vers ce qui nous rend intensément vivants, survivons, en deux mots, pour espérer avoir emmagasiné en nous suffisamment de soleil pour que lorsque les ombres viendront, eh bien nous ayons en nous le souvenir de ces moments de joie qui nous permettront de tenir debout.
Alors, Marianne Chaillant, grande amatrice de la culture pop, vous avez donc écrit des essais sur Disney et Harry Potter. Vous citez Maître Yoda dans Star Wars, que je ne vais pas imiter, rassurez-vous.
Dommage.
La crainte de la perte conduit vers le côté obscur. Exerce-toi à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre.
C'est magnifique, hein. Voilà. Alors, Yoda, c'est la philosophie, c'est la sagesse, mais Anakin Skywalker, que vous et moi, Ali, on a rencontré quand il était Dark Vador, et puis d'autres films sont sortis et nous ont expliqué pourquoi il était devenu si méchant, pourquoi il était devenu si inhumain. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait, Anakin ? Eh bien, il s'est refusé à perdre. Il a perdu sa mère, et face à cette douleur, il s'est dit « plus jamais, j'en veux plus ». Donc, face à la menace de perdre sa femme, il veut absolument conjurer la mort. Yoda lui donne une bonne leçon, il ne l'entend pas, et il passe du côté obscur. La question que j'essaye de me poser pour moi-même dans ce livre, c'est comment ne pas devenir Dark Vador ?
Loïc Robu, c'est une bonne analogie. Être obsédé par le fait de ne pas ressentir de la détresse fait qu'on ne vit qu'avec la détresse, en fait. C'est un peu le paradoxe des émotions. Quand on cherche à éviter une émotion désagréable, en fait, on ne vit qu'avec cette émotion désagréable.
Allez, dans quelques instants, vous verrez que la joie et l'amour de la vie sont de puissants antidotes à l'expérience de la perte. On se retrouve juste après avoir écouté Olivia Dean, qui interprète Lady Lady, 10h47 sur Inter.
She's all
Olivia Dean interprétait Lady Lady.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Comment surmonter la perte ? C'est notre thème ce matin en compagnie de la philosophe Marianne Chaillant et avec le psychologue Loïc Rebu. Et nous accueillons Chloé. Bonjour Chloé. Bienvenue.
Bonjour.
D'où appelez-vous Chloé ?
J'appelle de Grenoble.
Quel est votre témoignage ?
Alors moi je suis étudiante, j'ai 23 ans, je suis étudiante actuellement. Je suis en plein dossier de master et je me demande comment faire en fait pour survivre à cette perte de bouleversement futur.
Perte de repères.
Ouais, perte de repères, bouleversement, etc.
Qu'est-ce qui vous angoisse, Chloé ?
Eh ben, j'ai très peur de ne pas être maître de la décision du master, de changer de ville, etc. Voilà.
Loïc Rebu.
C'est difficile parce qu'effectivement, ce sont des inquiétudes légitimes. Alors, ce que moi, je peux vous aider à faire, c'est de vous garder à l'esprit que ce sont des inquiétudes qui n'existent pas encore. Pour l'instant, là, à l'heure actuelle, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire toutes les démarches qu'il faut faire pour réussir à avoir ces masters-là. Et le risque, ce serait de perdre son énergie à trouver des solutions à quelque chose qui n'existe pas encore. Comment je vais faire quand je serai à Paris ou à Marseille, alors qu'on ne sait pas? Comment je vais faire si je n'ai pas de master, alors qu'on ne sait pas? Ça va être de, pour l'instant, rester dans focus sur qu'est-ce que vous devez faire là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui peut vous aider, tout en acceptant le fait que, bien sûr, ces questions vous angoissent, que ça commence à monter, et donc en trouvant des solutions pour détourner votre attention vers des choses qui vous font du bien.
Merci beaucoup Chloé de nous avoir appelé. Sandrine nous écrit « J'ai perdu mon chien que j'adorais en novembre dernier. Je me suis séparé d'une relation amoureuse en février. À présent, je quitte mon associé pour travailler dans une nouvelle entreprise et j'espère dans de meilleures conditions. Donc, la perte, je suis en plein dedans et je travaille dessus. J'aimerais vous dire que tout ce qui commence a une fin, mais au milieu, ça peut être formidable et ça vaut le coup d'être vécu, ce qui permet un nouveau départ. Éternel recommencement, Marianne Chaillant.
Et en même temps, un recommencement de l'élan qui serait investi ailleurs, mais effectivement, pas recommencement, puisqu'il y a fin. Mais cette fin est nécessaire pour que d'autres choses démarrent. Et c'est ce que dit bien votre auditrice.
Alors, vous écrivez, Marianne Chaillant, savoir qu'on va finir, donc mourir, nous donne des raisons de commencer. Et en ce sens, le philosophe allemand Martin Heidegger nous dit que sans la mort, la vie ne serait pas vraiment vécue. Bref, il est essentiel de penser à la mort, non pas pour se faire peur, mais par amour de la vie et pour en réaliser la fugacité.
Mais oui, combien de choses avons-nous différé parce qu'on se dit « j'ai le temps », ou par crainte « j'aimerais lui dire ça, j'aimerais lui avouer mon amour, j'aimerais... » Mais bon, je le ferai plus tard. Mais quand on vit avec la pensée de la mort sans cesse présente à l'esprit, au moins ça a cette vertu qu'on ne diffère pas de vivre et qu'on engage pleinement son désir, on cesse de le différer.
Et relisons ce message d'avertissement d'Albert Cohen à tous les enfants du monde dans le livre de ma mère, un livre que notre camarade Nicolas Demorand, que j'embrasse, n'arrive pas à lire, et on peut le comprendre comme vous. Ouais. Je cite ce passage, « Fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles, aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra, et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère, les fous sitôt punis. » Et on peut élargir évidemment aux personnes qu'on aime, tout simplement.
C'est ça. La plupart d'entre nous, j'en suis sûre, sommes entourés de gens que nous aimons et nous prenons leur présence comme une évidence.
Comme un acquis.
Comme un acquis, comme un dû. Mmh. Et Albert Cohen nous adresse cette invitation salutaire.
Or, il a eu une mère formidable.
Il a eu une mère formidable, c'est vrai.
Je salue la mienne, d'ailleurs.
Et moi aussi. Mais aussi.
Voilà. De même, oui.
Maria Pasquet aussi, à la réalisation.
Vous voyez, tous les ans, je dis à mes élèves, au moment de la fête des mères, offrez à vos mères le livre de ma mère, cette déclaration d'amour folle. Je leur dis, ça fait combien de temps que vous n'avez pas dit à votre mère ou à votre père que vous l'aimez? Et la plupart me disent, oh non, mais j'ose pas.
Oser.
Au soir de sa vie, ma grand-mère m'avait dit, surtout ne diffère jamais de dire que tu aimes.
Loïc Rebu.
Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, quand tout se passe bien dans les familles...
Exactement, voilà, précise, hein, voilà. Quand c'est pas
mais
une...
Quand tout se passe bien, même avec nos amis, avec... en fait, oui, c'est important de vivre ces moments-là et d'oser vivre ces moments-là pour éviter les regrets. vraiment. Ouais.
Et si nous terminions cette émission, Marianne Chaillant, avec la joie, la joie de la vie, la joie spinozienne. Pour Spinoza, la vie doit viser la joie.
Oui, en tout cas, par rapport à cette question qu'on a abordée, il nous dit que quand on pense à la mort, à la perte, on ressent un affect, un sentiment, ça peut être la nostalgie, la douleur, la tristesse, l'angoisse, etc. On ne pourra pas le détruire par une simple pensée. Un affect est détruit par un affect, d'une force au moins intense, voire supérieure. Et il faut donc aller chercher un affect de joie. Il faut aller chercher ce qui nous rattache à la vie, ce qui nous met en joie. La pensée elle-même, la compréhension est source de joie, bien sûr, la pensée est productrice d'affect. Donc, encore une fois, au terme de cette émission, je trouve que vous avez raison, Ali, de conclure en nous invitant à vivifier
avec
nos expériences
deux
de joie.
Verbes fondamentaux à opposer à la mort, à la perte, aimer
et vivre. Aimer et vivre, oui. Au moment où j'écrivais ce livre et où je cherchais la réponse parmi les philosophes, j'ai été confrontée moi-même à l'expérience de la perte, et la vie me donnait la réponse que les philosophes me donnent eux-mêmes. Ce qui maintient debout, ce qui permet de survivre, ce sont les liens d'amour qui nous attachent au monde, que ces liens d'amour portent sur une personne, sur un paysage, sur une musique, sur un plat qu'on aime déguster. Aimons, vivons. Telles sont les deux seules vérités.
Et nous concluons cette émission avec Anne. Bonjour Anne, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Vous appelez de Charente-Maritime, bienvenue.
Voilà, c'est ça, voilà, exactement, exactement. Oui, je voulais témoigner rapidement. J'ai énormément perdu de monde en 10 ans, mais vraiment, les parents, les grands-parents, un filleul, enfin bref, beaucoup, beaucoup. Et j'ai vraiment la vie à pleines dents, je la vis à pleines dents. À plein dedans. Parce que la vie est très, comment dirais-je, c'est très éphémère, hein, malgré tout. Mais il faut se sentir, comment dirais-je, par rapport à ces événements, on a la chance d'être en vie, et c'est ça qu'il faut absolument témoigner. Voilà. Et je le fais avec mes enfants et mes petits-enfants.
Et comment faites-vous, justement, avec vos enfants et vos petits-enfants? Racontez-nous, Anne.
Alors, les enfants, j'ai pas trop, j'ai fait comme si il n'y avait pas eu tout ça. Je sais pas si c'est bien. Je les ai protégés. Mon fils est quelqu'un, de plus sensible. Ma fille aussi, elle l'extériorise, moi.
Et avec vos petits-enfants? Avec vos petits-enfants?
Alors les petits-enfants, j'explique que j'ai eu des parents, j'ai eu des grands-parents, et je raconte, mais pas, c'est pas du bourrage de crâne, surtout pas. Je prends beaucoup de recul. Et on profite à plein dedans, quoi, ça c'est clair. Je ne laisserai jamais un moment sans les enfants, je fais tout pour être près d'eux, voilà.
Vos témoignages d'âme, Marianne Chaillant.
Oui, c'est la sagesse, vivre avec fureur, passionnément, intensément.
Loïc Robin.
Et puis vous exprimez très bien de vivre son deuil et pas faire son deuil, vivez votre deuil, et ça c'est une belle chose.
Merci beaucoup Anne de nous avoir appelé, merci beaucoup Marianne Chaillant, je recommande vraiment votre livre Survivre, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci Loïc Robin, on peut vous retrouver sur votre compte Instagram militant, si c'est bien ça. Tous les épisodes de Grand Bien Vous Fasse à podcaster sur l'appli Radio France. Demain, comment aider les bébés et les jeunes enfants à mieux dormir? Toutes vos questions demain dès 10h au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France.